Bonjour à chacun et à chacune. Là, c'est bon, c'est bon, ça va aller, bien. Vous m'entendez?
Oui.
Bon, c'est bien. S'ouvre une période, on le voit, il n'y a plus de club biblique, là, s'ouvre une période donc de congé, pour certains. Les temps sont assez déstructurés maintenant. Il y avait autrefois des rythmes. L'été est souvent une période un peu de repos, en tout cas de changement de rythme. Alors ça dépend des métiers. Je pense à l'instant que, par exemple, pour ceux qui étaient dans la culture, l'été, ce n'est pas franchement une période de repos, puisque c'est la moisson. Que ce soit la moisson aussi pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est une période un peu particulière. Il y a des décisions à prendre, des examens qui ont été passés. C'est aussi dans ce temps de repos, on peut refaire un peu le point, peut-être prendre un peu plus de temps pour les chrétiens qui confessent le nom de Jésus-Christ, nous l'avons bien confessé ce matin, pour aller plus peut-être dans sa parole, voir ce qui s'y dit. On est dans une période où, au niveau du monde, il se passe quand même pas mal de choses. Ils ont vécu une période particulière en France. Je ne sais pas vous, moi, à un moment, j'étais perdu. Je suis sauvé, hein. Mais franchement, pour y voir clair sur tout ce qui se passe, je crois qu'on est dans des temps aussi où beaucoup de séduction, y compris dans tous les pouvoirs économiques, politiques, il y a une masse d'informations qui est là. Et qui peut nous désorienter. Alors ce matin, Daniel m'a facilité le travail avec son introduction sur le retour du Seigneur. Avant de lire la conclusion de ce verset, que ceci soit une consolation pour vous, il a parlé de la joie. Est-ce que c'est là un sujet de joie? Qu'est-ce qui fait notre joie? Vous allez passer des vacances. Est-ce que c'est ça qui va faire votre joie dans vos vies? Ça peut être des réunions de famille, il y a plein de sujets qui peuvent nous donner la joie. Mais ce matin, la Bible nous exhorte à un moment, nous ordonne, Paul nous ordonne, soyez toujours joyeux. Bon, des fois j'ai du mal, hein, je reconnais. Hein. Soyez toujours joyeux. Et ce n'est pas ce passage-là que je vais prendre. C'est une pensée qui me tient là depuis un mois, j'en ai fait l'objet de la petite méditation dans le programme. Et nous allons aller tout de suite lire dans la première lettre de Pierre. Je vais ce matin beaucoup m'appuyer sur cette première lettre de Pierre et vous allez voir ce qui m'a touché. Alors je vous le partage, tout simplement. Nous allons lire d'abord dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 9. Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. On pourrait dire à ceux qui sont dispersés dans des activités qu'il nous faut avoir, hein, des activités professionnelles, des études, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et j'ajoute, Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que c'est bon de dire ça. Béni soit Dieu, Dieu, quel Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. C'est là, ce qui fait votre joie. Est-ce que c'est là ce qui fait notre joie ce matin? Ce que je viens de lire avant. C'est là ce qui fait votre joie et notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je m'arrêterai là. C'est là ce qui fait notre joie. J'ai relevé dans les versets, puisque il est dit au verset 6, c'est là donc, dans ce qui précède, dans ce qui a été lu avant, ce qui doit faire notre joie. Alors j'ai relevé 7 points que je parcourrai assez rapidement, je vais presque les citer, mais qu'on y trouve des sujets de joie. Et puis, je m'interrogerai avec vous sur, ça ne dure pas très longtemps, c'est là ce qui fait votre joie, et immédiatement après, il y a un quoique. Franchement, ça se gâte. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Alors on va regarder ce qui doit faire notre joie. Premièrement, nous avons été élus. Nous avons chanté avant ma naissance, « Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. » Élus, nous avons été élus, choisis par Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi ce choix? Parce que tu es meilleur? Parce que tu t'es bien comporté? Non. Parce que Christ, par sa mort, a réglé le problème du péché. Lui, le Fils de Dieu, cela, c'est la miséricorde du Père. Par la résurrection de Christ qui se tient auprès du Père, le bateau du salut est en marche vers sa destination. Le capitaine est à bord et tous sont invités à monter à bord. La grâce est offerte à tous. La question, c'est l'as-tu saisi? Es-tu monté dans le bateau? J'ai envie de te dire ce matin, monte si tu ne l'as pas fait. Car ton nom alors sera inscrit sur le registre de bord, sur le livre de vie. Peut-être certains se disent, mais cette histoire de l'élection, de la prédestination, lui, qui il est, lui? Il est Dieu. Il est Dieu. La parole nous dit, mais plutôt toi qui es-tu pour contester avec celui qui t'a créé? Toi, n'as-tu jamais rien fait de mal? Lui, Jésus-Christ, n'a jamais rien fait de mal, mais plutôt du bien partout où il est passé. Alors ce matin, face à cette question, il y a des questions comme ça dans la parole de Dieu, cette histoire de l'élection, réjouis-toi. Tous sont appelés. Il y a peu d'élus. Pareil, c'est pas nous. Mais sa grâce est pour tous. Alors notre affaire n'est pas de savoir comment Dieu fonctionne. Notre affaire est d'accepter ce qu'il nous propose. Je te dis ce matin, si tu es là, si tu es dans l'élection, saisis la grâce qui t'est offerte. Nous sommes élus. Il est dit aussi que nous sommes sanctifiés. L'élection, vous conviendrez avec moi, il y a aussi une dimension qui met à part, lorsqu'un président, un député est élu, c'est quand même quelqu'un qui est mis à part. C'est pareil pour nous. L'élection se manifeste par une action du Saint-Esprit qui nous a mis à part, arrachés à ce présent siècle mauvais, afin que nous puissions lui obéir et lui plaire. Tite 2, verset 11, dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse, et nous y voilà, Espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Sanctifié, il y a une notion, c'est dit dans l'introduction aussi, de mise à part. Elle est élue, sanctifiée, participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire pardonner, ça veut dire justifier, ça veut dire purifier de tous nos péchés et aussi de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ a la puissance non seulement de pardonner les péchés, ce qui a été commis, ce que l'on pensait, mais aussi d'arracher les racines de l'iniquité. Régénérer. Né de nouveau, ça a été dit dans le chant aussi. Une nouvelle vie appelée à se développer avec la puissance du Saint-Esprit pour renouveler tout notre système de pensée et de motivation. Voilà encore un sujet de joie. C'est un sauveur, mais un sauveur qui simplement ne nous arrache pas du bateau. Il a tout prévu pour que nous puissions être renouvelés. La nouvelle naissance, nous aimons, nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. La nouvelle naissance est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. La nouvelle naissance d'un homme, âme et esprit, à l'esprit desséché, rupture avec Dieu, de rétablir la communication. Vous le savez, ça, l'homme ne peut le faire. Je vous donne des vérités fondamentales, je vous donne simplement ce que dit la parole de Dieu. Je suis en train de vous expliquer ce « là ». Et je vous dirai tout à l'heure comment garder le « là ». Là, c'est là ce qui fait notre joie. Ne nous égarons pas. Pourquoi c'est important de reparler de ça? Parce que nous avons vu à travers toute la parole de Dieu combien nous sommes prêts à s'écarter de lui, combien nous pouvons des fois être tentés de retrouver notre joie dans la cuisine de l'Égypte, les oignons de l'Égypte. Frères et sœurs, je me répète en ce moment, j'ai demandé au Seigneur. Vraiment, j'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur, peut-être guide-moi à autre chose. Mais les temps se trouvent importants. Je le rappelais hier aux quelques-uns qui viennent à l'enseignement. Les sources qui nous abreuvent, le combat pourrait paraître tellement inégal entre les sources, les moyens puissants qui nous abreuvent, nos sens, notre âme. Et ce livre, on pourrait dire le combat est inégal. Alors je vous dis, oui, il est inégal. Et nous l'avons chanté, celui qui a remporté la victoire, c'est celui qui est au cœur de ce livre, Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que nous comprenions ce que ça représente. Ce que représente l'élection, ce que représente la sanctification, ce que représente participer à l'aspersion du sang de Jésus, ce que représente d'être régénéré, ce que représente, et là il y a un verset qui me touche, à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Je relis ce texte, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors là on pourrait avoir tout faux. Je dis, mais ça y est, je suis sauvé. Pourquoi le salut prêt à être réservé? Ils reviendront parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous savez que nos corps, et c'était un autre sujet de réjouissance, je vais revenir tout de suite, mais là, nous sommes gardés. Écoutez cette bonne nouvelle. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, pas par la nôtre, nous n'en avons pas, mais par la foi, ça, c'est notre part. De croire, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et c'est curieux cette phrase, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés par la foi, mais c'est la puissance de Dieu agissant en nous qui nous permet d'être gardés par la foi. C'est sa puissance, c'est-à-dire que sans son intervention, bien souvent, nous chancellerions. Et nous chancelons, mais il nous rétablit. C'était une chose qui a été très difficile pour moi. Je me suis dit, c'est par la foi. Après, ça m'a rassuré, je ne suis pas le premier. Pierre a marché sur l'eau, et puis il a coulé dès qu'il a regardé aux circonstances. Ce père qui venait pour son fils, Je crois en toi, mais viens au secours de mon incrédulité. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, frères et sœurs. Par le Dieu Tout-Puissant, il nous garde et nous sommes gardés par la foi qu'il a déposée en nous et alors que nous pouvons proclamer, nous pouvons avoir la foi et saisir alors la grâce. Et tout est relié. Notre part, c'est de connaître, de recevoir avec douceur, avec humilité, tout ce que nous dit la parole. Alors notre foi va s'établir. Et la puissance de Dieu, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous parlerai du 4-4 tout à l'heure, et la puissance de Dieu peut alors agir. Nous avons une part qui est si minime. C'est lui qui nous a choisis, nous a éclairés. À partir du moment où nous sommes éclairés, nous pouvons dire, Seigneur, je crois. C'est ça, la grâce. Dire, Seigneur, je crois. Et la puissance de Dieu vient agir puissamment. Ça lui plaît. Quand une âme défaillante ose dire, je crois, Seigneur, alors la puissance de Dieu agit et nous sommes affermis. Ça ne vous donne pas la joie, ça ? Au moment où ça a été dit dans les prières, et je me réjouis quand il y a des prières comme ça. Seigneur, je défaille, je doute, je veux plus de ça. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Pour le salut prêt à être révélé, nous sommes assurés d'un salut complet. Il a commencé et il est parfaitement accompli en espérance le jour où notre âme a été touché, où le Saint-Esprit a révélé la vérité, où a déclenché une repentance et la foi dans l'œuvre de Christ, il sera complet le jour où le Seigneur reviendra, où nous l'avons lu ce matin, nous qui sommes là, peut-être parmi vous, parmi nous, certains seront là quand le Seigneur va revenir, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts en Christ, il ne faut pas oublier ça. Parfois, c'est lu, ça, des obsèques, on oublie ceux qui sont morts, en Christ, en Christ. On ne les précédera pas, ils sortiront des tombeaux et revêtiront un corps immortel. Est-ce que ça vous donne la joie ? Est-ce que ça vous donne la joie ? Les articles de notre foi, frères et sœurs, pourquoi aller chercher ailleurs ? Je ne vais pas au-delà de la parole, mais je la veux toute. Nos corps de misère, nos corps d'humiliation seront transformés. Je terminerai mon message en lisant un passage d'Ésaïe à ce sujet-là. Septième point, possédant une espérance solide, ça va avec la ferme assurance de vivre éternellement. L'éternité, ce n'est pas simplement un temps qui dure longtemps. L'éternité, ce n'est pas un temps qui dure longtemps. C'est une autre vie qui n'a ni commencement ni fin. Nous y entrons par un transport. Dieu est éternel. Au commencement, Dieu, avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu était avant les cieux et la terre. Il est Dieu. Et il nous fait cette grâce. Quel sujet de joie d'entrer dans l'éternité, non pas avec un saignement qui aurait un début le jour de nouvelle naissance, et puis qui n'aurait pas de fin. Ça, en géométrie, ça s'appelle une demi-droite. Oui, il y a un début, et puis il n'y a pas de fin. Mais en géométrie, il y a aussi la droite, qui n'a ni commencement ni fin. Et par la nouvelle naissance, nous entrons dans l'éternité. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres, de cette terre, et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ, lui-même Dieu. Voilà, j'ai été très rapide sur ces quelques points, on pourrait le découper autrement. Je vais simplement vous faire goûter que nous revenions à ces choses. Élus, sanctifiés, justifiés, pardonnés, purifiés. Gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Un salut complet, esprit, âme et corps. Aujourd'hui, notre corps, il est ce qu'il est. Mais la vie nouvelle qu'il a déposée nous permet de l'aimer, Jésus-Christ, sans l'avoir vu, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, et de croire en lui sans le voir encore. C'est beau, ça. L'aimer sans l'avoir vu, croire sans le voir encore. Ça, frères et sœurs, c'est ça la foi qui a été déposée dans nos cœurs, et cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, il y a une suite à ce verset très court, je vous le disais, « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Les enthousiastes vont dire « Ah, ça y est, voilà, c'était bien le début du verset. » Ben écoutez, je suis désolé, mais il y a une suite, je suis obligé de la lire. Des fois, vous savez, on se dit « Oh là 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 là, c'est compliqué, on va... Oh, quand même, faut pas qu'on décourage, faut qu'on encourage, alors bon, on va s'arrêter là. » Vous savez que dans Ésaïe, les premiers propos de Jésus à la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, etc., aux malheureux, etc. » qui se termine, « Et un jour de grâce, et puis il s'arrête là. » Vous savez que dans Ésaïe, il y a une suite, hein. Il y a le jour du jugement. Mais au moment où Jésus est venu, il annonçait, voilà cette séquence qui s'ouvre. C'est une autre bonne nouvelle, ça fera le huitième point si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce. Et puis un neuvième sujet de joie, c'est que finalement notre joie, c'est de savoir, de connaître par révélation que celui qui nous aime et qui nous a rachetés pour lui veut que nous héritions de tout cela. Notre sujet de joie, c'est de savoir par révélation. C'est la révélation de ta parole qui est claire. Est-ce qu'on peut se réjouir pour ça? D'avoir chacun reçu. Nous n'avons pas tous reçu la même chose. Est-ce qu'on peut se réjouir de ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Vous savez, cette parole-là, là, j'ai peut-être cassé les oreilles à deux, trois. C'est là ce qui fait votre joie. Moi, ça a été une révélation. Je l'ai lu 20 fois, peut-être, ou 30 fois ce passage. Mais c'est là ce qui fait votre joie. Demandons au Seigneur une révélation de sa parole. Pas des révélations hors de sa parole. Et que lorsque nous avons des révélations de sa part, vérifions bien qu'il ne conduise pas sa parole. Le Saint-Esprit ne contredira jamais, jamais, celui qui l'a répandu. Le Saint-Esprit ne contredira jamais celui qui l'a répandu. Alors je viens à la suite. On pourrait dire que cette parole amène, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par... afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On pourrait dire que ça amène un sérieux bémol à la joie proclamée juste avant, puisqu'il le faut. L'épître de Pierre nous précise plusieurs situations. Pourquoi cette nécessité, c'est bien comme ça que je lis le texte, puisqu'il le faut, maintenant. Le maintenant s'oppose bien à la vie éternelle, au retour du Seigneur, au millénium et puis à l'éternité. Donc plusieurs situations sont précisées par l'épître de Pierre dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » On voit un peu ce que peut être des sujets de tristesse. La calomnie, ça fait plaisir à personne. Quand vous savez vraiment devant le Seigneur que votre démarche, votre parole peut-être, votre attitude est juste devant Dieu et que ça déclenche la calomnie, alors il y a les hyper spirituels qui disent « oui, moi ça ne me fait rien », etc. Reconnaissons peut-être, en tout cas moi j'en suis là, que sur le moment, ça provoque quelque chose. Et c'est pour ça que c'est nécessaire, ces épreuves. Parce que au fil, jour après jour, nous voyons comment ça réagit. Comment ce corps dans lequel nous sommes réagit à ces calomnies. Hein, je viendrai aussi dans la conclusion. C'est une manière d'enracinement et de prise de force, finalement, petit à petit. Et il faut beaucoup de coups de vent, un coup de vent dans un sens, un coup de vent dans l'autre, pour que l'arbre s'enracine. Ne me demandez pas comment ça se passe, mais je vois que ça se passe. L'arbre développe des racines plus fortes là où il y a les vents dominants. Ne me demandez pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il le faut. Là également, dans l'Épître de Pierre, au verset 18 du chapitre 2 également, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Alors déjà, ça, c'est pas trop... C'est pas naturel. Ça, hein. C'est pas naturel. Les temps où nous sommes, je la fais pas facile, sont très révélateurs à cet égard. Nous étions en quelque temps dans un restaurant. Bon petit restaurant, bon fort sur nous. Et il y avait une jeune serveuse, vraiment gentille. Et alors, à un moment, on voit le patron, vraiment une bonne cuisine. C'était très bien, c'était très bien accueilli. Donc, vous avez une serveuse. Oh, monsieur, je suis content. Elle est polie avec les clients. Elle est polie avec les clients. Elle les salue. Elle est polie et elle ronchonne pas. Il m'a absolument pas parlé de ses qualités professionnelles. Mais il était déjà content. Il était déjà content. Un artisan l'autre jour qui nous dit, vous avez un peu du mal, oh, il dit, je suis content celui-là. Il vient au travail tous les matins. Il ne m'a pas parlé de savoir comment il posait les pierres. Hein. Il les posait bien. Attendez, c'est intéressant quand même. Il est content. Parce que le gars, il vient au boulot tous les matins. Extraordinaire. Alors donc, Pierre nous dit, soyez soumis en toute crainte. Il ne dit pas, soyez soumis, soyez cool. Soyez soumis en toute crainte, je suis désolé. Au boulot, il y a un patron. Il y a un patron. Alors attendez, ça c'est juste le début. Et il ajoute, Pierre, non seulement à ceux qui sont bons et doux. Là aussi, moi j'ai vu des choses très concrètes. Hein. Les artisans, notamment le charpentier, il parle un peu comme ça, mais il est bon et doux avec ses ouvriers, il leur demande même leur avis, tout ça. Et alors Pierre nous dit, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alors, vous avouerez quand même que ça fait beaucoup. Hein. Mais il le faut. Il le faut. J'ajoute encore un petit peu au verset 21, sur le même sujet, il dit ceci, « Et c'est à cela que vous avez été appelés. » Ah, quel appel! Eh bien, voilà. Voilà. Mais attendez, vous savez, je ne fais pas une grande... Je n'ai pas fait une grande, grande exégèse, je lis le texte de Pierre. Allez, 1 Pierre 4, verset 1. « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » Ah oui, ça c'est quand même important. Donc quand on souffre dans la chair de diverses épreuves, il semble que ça contribue. Mon chant brise en moi toute résistance. Je crois que ça fait partie du processus. La souffrance n'a aucune vertu salvatrice. Mais l'Ecclésiaste dit néanmoins, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Elle n'a pas de vertu salvatrice. Mais il faut bien reconnaître que, étant ce que nous sommes, la souffrance facilite de temps en temps, lorsque l'action de Dieu s'est manifestée dans notre cœur, une meilleure compréhension peut-être des limites de nos frères et sœurs. Peut-être. Et il est dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pierre ajoute, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés, moi ça me parle beaucoup ça, j'ai vraiment eu dans ma vie, c'est assez en effet d'avoir eu dans les temps accomplis, passés, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Est-ce qu'on en a assez de ça? Est-ce qu'on en a assez de ça? Et puis il conclut, dans 1 Pierre 4 encore, une fois qu'il nous a expliqué un peu point par point les détails dans lesquels ça va s'appliquer dans notre vie, ces occasions d'être un peu attristés, maintenant, puisqu'il le faut, il conclut, frères et sœurs, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. En fait, il y a là, pour que ces choses deviennent réalité dans nos vies, la nécessité que nous comprenons bien que le monde est déjà jugé et que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et je préciserai dimanche après dimanche, mois après mois, et peut-être année après année, qu'il ne s'agit pas là des personnes, mais de l'esprit du monde, des frères et sœurs. Le bateau du salut, dont le capitaine est Jésus-Christ, sa place sur l'océan des nations, sur la mer de ce monde, sa place est normale. Un bateau sur la mer, c'est normal, c'est sa place. Par contre, la mer dans le bateau, c'est moins normal. M'accorderai que la mer dans le bateau, c'est moins normal. L'église de Jésus-Christ est ce navire. Nous avons cette image du navire hôpital et d'équipement. L'église. L'église de Jésus-Christ, sa place est normale. Je vous ai laissé dans le monde. Mais la mer dans le bateau, je peux vous dire, ça devient compliqué. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Voilà, en quelques mots, pourquoi Pierre nous dit « C'est là ce qui se fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. » Et maintenant, pour ce temps de vacances, et au-delà, j'espère, je voudrais aborder avec vous, je vais essayer de vous donner un petit moyen mnémotechnique bien modeste, comment garder le « là ». C'est important pour les musiciens. Alors là, c'est le « là » avec accent. Hein ? C'est « là » ce qui fait notre joie. Alors, comment garder le « là », ce « là-là », ce « là-là ». D'accord ? Comment garder ce « là », ce qui fait votre joie, tandis que nous marchons dans le temps du « quoique maintenant, puisqu'il le faut ». Ah, c'est un peu compliqué, cette affaire. Alors, je vous invite à lire, toujours dans la première lettre de Pierre, un peu dans la conclusion de cette lettre. On va lire à partir du verset, chapitre 5, verset 5, donc du 5-5, on va lire la méthode du 4-4. Voilà. Donc, comme ça que vous reteniez, si vous voulez retrouver le passage, 1 Pierre, c'est 5-5, et puis on va essayer de voir une méthode 4-4 pour vivre cela. Alors, 1 Pierre 5, verset 5, vous savez, les 5-5, il y a beau, par exemple, Romains 5-5, bien plus, nous nous réjouissons encore de ces souffrances, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un beau verset aussi, hein. Alors, à partir de 1 Pierre 5, verset 5, donc de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, mais c'est pas ça, je lis à partir de la deuxième partie du verset. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc. Le donc, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je pense que Paul, il voudrait que Dieu nous fasse grâce. Humiliez-vous donc, sous la puissante main de Dieu. Je ne me dis pas tout seul, c'est toujours sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà les quatre premiers points. Le Dieu de toute grâce, quand ça va être fait ça, qui vous a appelé en Jésus-Christ, élu, à sa gloire éternelle, alléluia, après que vous aurez souffert un peu de temps, il a de la suite dans les idées, Pierre, quand même, hein, après que vous aurez souffert un peu de temps, le peu de temps, c'est juste entre le moment où vous avez rencontré Christ, et vous n'avez plus envie de retourner dans ce que vous avez vécu avant, et le moment où il va revenir. Là, c'est la demi-droite, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fera ? Vous perfectionnera lui-même. Le Seigneur va s'occuper de nous personnellement. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Quatre attitudes de notre part, ouvrant quatre interventions de Dieu pour une croissance et une maturité dans notre marche. Quatre attitudes de notre part. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et il y a un ordre dans ces quatre choses. Ça commence toujours par ça. J'avais humiliez-vous, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est nécessaire de reconnaître qu'on peut y arriver sans lui. J'avais cette image pour ôter un lourd sac à dos. Hein, un bon sac à dos là. Pas le petit sac à dos de la promenade du dimanche. Sac à dos qui va en montagne avec le petit gaz, la tente et tout le bazar. Bon, tout ça, c'est très léger aujourd'hui, mais on en met plus du coup. Et en fait, pour décharger un lourd sac à dos, quelques expériences que j'ai pu faire là-dessus, pour enlever les sangles, là, il faut d'abord poser le sac à dos sur un muret, oui, pour que ça se relâche un peu. Sinon, on n'arrive pas à décharger. Et donc ça, c'est une idée, je ne peux plus le porter, ce truc-là. Alors, je m'assois, j'arrête. Et là, je vais pouvoir décharger. Humiliez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et Pierre continue, soyez sobre, veillez. On pourrait dire, pour veiller, soyez sobre. La sobriété... On pense naturellement nourriture, alcool, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire rempli du Saint-Esprit, mais aussi sobriété dans d'autres points. Surprendre sobriété dans la connaissance. Vous savez que le Deutéronome au chapitre 13 nous met en garde de tout connaître, notamment tout ce qui est les domaines tordus, de plus en plus, une abondance d'informations, je le répète, et on peut être tenté de savoir tous les liens, tous les machins, tous les trucs, et puis toutes les techniques nouvelles de bien-être, voire pour les dénoncer d'ailleurs. Hein. N'oublions pas que le Seigneur nous dit, vous n'avez pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Ce que nous avons, que le monde n'a pas, c'est la vérité en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas le monde qui pourra l'expliquer au monde. Mais la vérité en Jésus-Christ, les sept points que j'ai évoqués tout à l'heure, il n'y a que les chrétiens nés de nouveau qui possèdent cela. Je dis bien qu'ils les possèdent. Et nul autre que, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, ne peut apporter ça au monde. Tout le reste, on peut discuter de tout avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. C'est des discussions sans fin. J'ai été un spécialiste. J'ai vu les fruits que ça a porté et que ça porte encore parce qu'on a des descendances des fois. Deutéronome 13 nous invite à ne pas même nous informer sur certaines choses. Idolâtrie, philosophie en tout genre, parce que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous pouvons, dans ces voies-là, nous épuiser à démontrer, y compris dans de bonnes intentions d'éclairer quelqu'un, mais prenons garde, l'ennemi peut se saisir de cela pour nous écarter de la vérité. Vous savez, c'est subtil, ces affaires-là. Donc la sobriété en toute chose. Sobriété aussi dans nos paroles, dans toute notre vie. Je crois qu'il y a vraiment une chose à rechercher là. Alors, si nous nous sommes humiliés, si nous avons pu déposer le fardeau, si nous avons une sobriété dans toute notre attitude, je crois que nous sommes en forme pour résister au diable. Je n'ai pas compris ces derniers jours, j'ai eu des choses un peu particulières, mais vraiment ces choses m'ont parlé. On ne peut pas lutter contre les ruses du diable quand on est trop encombré de soucis, terrestres ou de toutes sortes. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, on n'a pas l'esprit clair. Et on risque de lutter à un niveau moindre. On va lutter contre la chair, c'est inévitable. Parce que les tristesses de toutes sortes, de vie familiale, liées à la maladie, liées aussi à la vie chrétienne, il y a des choses qui attristent, peut à un moment charger et nous faire chanceler quant à la foi. Je résume, humilions-nous, déchargeons-nous, soyons sobres, résistez. Alors, nous ouvrons la porte à la puissance de Dieu. Alors, lui, Jésus-Christ, nous perfectionnera. Lui, nous affermira. Lui, nous fortifiera. Lui, nous rendra inébranlables. Inébranlable, ça ne veut pas dire dur, ça ne veut pas dire raide, mais inébranlable. Bien planté, bref, des témoins, plus des enfants, des fils et des filles, bien plantés. À lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je voudrais simplement, fin de ce message, prier pour... tout ce qui peut amener de la tristesse dans nos vies, que nous faisions la part, je n'ai pas tout développé. Je prie que ce ne soit pas notre conduite qui nous amène à de la tristesse, notre conduite passée, ou l'iniquité, ou des choses que Dieu réprouve qui nous amènent à la tristesse. Mais acceptons que des choses nous attristent et qu'on soit fortifiés. Je vais en profiter aussi pour prier pour ceux qui, pour la maladie dans nos corps. Nous sommes dans ces corps. L'Éternel est le Dieu qui guérit, c'est incontestable. Alors nous allons prier pour ça aussi. Et si dans sa souveraineté, la guérison ne vient pas, qu'il nous donne la force et le courage de suivre. Notre Dieu, nous te bénissons, nous venons devant toi, Seigneur. Nous avons, Seigneur, proclamé, rappelé ta parole. Merci pour ta parole qui nous a amenés à la joie, Seigneur. Cette grâce que nous avons chantée, que nous avons saisie, Seigneur, par la foi que tu as mis dans nos cœurs. Une parole est venue, Seigneur, un témoignage. Des circonstances que tu as mis dans nos vies nous ont amenés, Seigneur, à tes pieds. Et nous avons reconnu que nous avions besoin de ce si grand salut. Seigneur, nous nous réjouissons de cela. Seigneur, nous ne savions pas tout ce parcours, tout ce chemin, peut-être ces chemins de désert, peut-être tout ce que tu allais nous montrer, Seigneur, sur nos vies. Mais aujourd'hui, avec mes frères, avec mes sœurs, je te dis, Seigneur, merci pour cette route nouvelle que tu as inaugurée, sur laquelle tu nous as placés. Seigneur, nous sommes... un corps, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les plus faibles aujourd'hui, qui seront peut-être les forts de demain, Seigneur. Mais ceux qui aujourd'hui, Seigneur, sont prêts à lâcher. Parce que la souffrance, parce que la tristesse, parce qu'il y a encore des cris, parce que cette tristesse, comme tout n'a pas été saisi encore de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, et de notre perdition, Seigneur, amène peut-être la révolte. Alors je te prie ce matin que cela sorte des cœurs. Et que Ta paix vienne dans les cœurs. Que ta paix vienne dans les cœurs. Que l'humiliation soit possible, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont été humiliés. Non pas par toi, Seigneur. Non pas à la révélation du péché, mais parce que peut-être, dès leur enfance, par des paroles, Seigneur, qui portaient ou sur leur taille, ou sur leur poids, ou sur leur aspect, ou sur leur réussite scolaire, professionnelle, Seigneur. Seigneur, toutes ces choses qui ont pu envoyer des vies, Seigneur, sur des impasses, sur des chemins de souffrance, Seigneur, qui ont amené la révolte. Je te prie pour cela ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ce matin, que tu rétablisses. Que tu rétablisses, Seigneur. Oui, que tu viennes, Seigneur. Vois les cœurs qui s'humilient. Vois les cœurs ce matin qui te disent, je veux me décharger de tout ça. Et Seigneur, viens agir par ta puissance. Par ta puissance, Seigneur. Viens affermir. Viens fortifier, viens donner du muscle, de la foi, Seigneur. Pour que nous devenions non plus enfants. L'enfant, oui, a l'héritage, mais il n'en profite pas, Seigneur. Il n'est pas vraiment entré dedans. Fais de nous des fils et des filles. Par ton beau, précieux nom, Seigneur. Par cette aspersion du sang à laquelle tu nous as donné de participer. Sois béni et sois loué, Père. Amen.